Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. C'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. Aujourd'hui, on se pose la question, ou même on vous pose la question, est-ce que la neige vous empêche de sortir de chez vous? Parce que c'est la question juste à côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter les déplacements de tous et toutes en hiver? Vous répondez à la question directement sur la page de l'émission d'Accès libre en tapant canalm.vusezvoix.com ou en repérant sur les réseaux sociaux Canal M, la radio de Vusezvoix. En table ronde, pour en discuter, Florence Pardot, qui est aussi coordonnatrice Action Femmes handicapées de Montréal, en plus de participer à la fameuse Escouade neige, on reçoit aussi les responsables de cette Escouade neige, qui est une initiative d'Axéco, Émilie Lefrançois et Luc Forget. Aussi, d'autres questions qui vous concernent, la sexologue à domicile Sonia Boucher vient ensuite du mouvement Et maintenant nous parler d'harcèlement au travail. On entendra aussi un peu plus sur l'application Sing et Hi, qui est présentée par Robert Savard de l'INCA. On rencontre la nouvelle commissaire de la Commission des droits de la personne, Roxane Leboeuf. Et en ouverture de cette émission, dans les cégeps et l'université, il y a de plus en plus de personnes qui présentent des troubles d'apprentissage. Et cette véritable explosion, on en parle avec Nicolas Fortin de l'Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap. Tout ça sur Canal M, la radio de Vusezvoix. Dans un article paru dans la presse un peu avant qu'on tombe en vacances, si je peux le dire, et qu'on revienne, c'est-à-dire en fin novembre 2017, la journaliste Marie-Ève Maurras faisait état d'un grand changement en éducation, je dirais même en matière d'accommodement. L'article en question, c'était « Le nombre d'étudiants à besoins particuliers explose sur les campus ». Donc, en gros, elle nous rappelle qu'après les élèves qui ont une déficience motrice, visuelle et auditive, il y a toute de nouvelles cohortes qu'on appelle les clientèles émergentes qui sont très nombreuses et qui viennent s'ajouter aux besoins dits à besoins particuliers. Donc, c'est un grand changement en éducation. C'est pour ça qu'on invite M. Nicolas Fortin, vice-président de l'Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap. Bonjour, M. Fortin.
Bonjour, M. Racette. Ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Content que vous soyez là. C'est rare qu'on vous convie à l'émission. Juste le dire, c'est votre acronyme, c'est AQUISECH.
AQUISECH.
Voilà.
L'Association québécoise et interuniversitaire des étudiants en situation de handicap. Nous sommes 17 universités québécoises.
Ah oui.
Dans notre association, dans cette association-là, il y a des responsables des services d'aide pour les étudiants en situation de handicap, et il y a aussi des conseillers.
Bon.
C'est convivial comme association et je vous dirai par la suite c'est quoi un petit peu nos motivations et notre raison d'être.
Parfait. Et donc, vous n'êtes pas nécessairement un organisme de défense de droit, on entend. Vous êtes là pour regrouper ces professionnels rares, mais nécessaires, des milieux postsecondaires. Mais il y a aussi au cégep et à l'université de ces professionnels. Bon.
Oui.
C'est ça? OK. Donc, M. Nicolas Fortin, l'article dont on parlait parle d'étudiants à besoins particuliers, de son nombre qui explose dans une université du Québec. Est-ce qu'on parle souvent de ces personnes? Qu'en est-il?
Oui, bien, je vais vous donner un petit peu des statistiques. Effectivement, que depuis près de 15 ans, notamment en 2002-2003, nous avions pour l'ensemble des universités québécoises 1645 étudiants.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, et je vous donne les statistiques de 2016-2017, parce que nos statistiques sont toujours, on les comptabilise à partir du mois d'avril.
Mm-hmm.
Donc, sont pas notamment encore sortis pour cette année, mais pour l'année passée, nous en comptons 14 652.
C'est plus qu'une explosion, là. C'est même presque exponentiel. Et donc, il faut comprendre, dans ces 14 500 environ étudiants, il y a pas une grande croissance de personnes qui auraient une déficience motrice ou qui seraient aveugles, par exemple. C'est vraiment ce qu'on appelle les clientèles émergentes. C'est à peu près combien, puis c'est qui exactement?
Oui, ben en fait maintenant il n'émerge plus parce que c'est des étudiants qui, que ça fait 10 ans environ, oui. Qu'on en retrouve davantage.
C'est l'ancien vocable, oui.
Oui, on nomme plutôt un handicap non visible, plutôt que des étudiants qui ont un handicap émergent. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on pourrait les définir, en fait. Mm-hmm. Quand on parle de troubles du cycle de l'attention, troubles d'apprentissage, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, troubles de santé mentale et troubles du spectre de l'autisme.
Mm. Et d'ailleurs, rappelons même que le trouble du spectre de l'autisme s'est grandi dans son faisceau. Hein. On dénombre autour de 2% des personnes de la population qui auraient ou qui se retrouveraient quelque part dans ce trouble. Ça fait mm-hmm. beaucoup de monde.
Oui, bon. C'est grandissant dans les universités, effectivement. Mm. Puis, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est beaucoup d'étudiants qui ont un TDA, TDAH.
Oui, le TDA, TDAH. Et là, là, au micro, il pourrait vous en parler. Mais au-delà de ça, parce qu'on parle des élèves, j'aurais envie d'abord de vous demander comment on aide les professeurs à rendre ces accommodements-là possibles et conviviales, disons-le comme ça.
Ben en fait, tantôt on discutait de l'AQUISÈCHE. L'AQUISÈCHE, c'est notre association et chaque année, l'AQUISÈCHE donne des formations à l'automne et au printemps sur des enjeux de nos étudiants en situation de handicap. Mm-hmm. Alors c'est des formations qui se veulent un petit peu, qui sont centrées en fait sur les problématiques que peuvent vivre les étudiants mm-hmm. et aider un petit peu les conseillers à parfaire leur formation. C'est des formations sur, il y a eu l'année passée sur la lecture d'un rapport neuropsychologique et mm-hmm. un petit peu de ce qu'on peut en comprendre et comment qu'on peut en sortir des éléments de conclusion pour pouvoir libeller des accommodements pour nos étudiants.
En gros, c'est parce que faut que les professeurs soient informés des types ou des limitations fonctionnelles possibles et, disons, accommoder, déployer des manières un peu différentes de dispenser l'enseignement.
Oui,
ou même l'évaluation.
Oui, et les conseillers se basent en fait sur des évaluations, que ce soit neuropsychologiques, mm-hmm. que ce soit des évaluations psychologiques. En fait, les professionnels qui sont soumis à la loi 21, oui. Qui peuvent porter des diagnostics. Mais ce que j'ai le goût de rajouter, c'est qu'il y a des guides qui se sont faits en ce sens pour aider les professeurs, notamment à l'Université de Montréal, nous avons fait un guide. Mm-hmm. Je sais que Mme Ruth Filion aussi a fait un guide pour un petit peu les accommodements des étudiants en situation de handicap.
Bien.
Fait que ces guides-là proposent des moyens déjà mis en place pour venir répondre aux questionnements aux préoccupations du personnel enseignant.
Oui, d'ailleurs, il ne faut jamais compléter la phrase de quelqu'un qui a une difficulté d'élocution. Non, non, c'est une blague! Non, mais je reviens quand même pour souligner une chose, Nicolas Fortin. Je ne l'ai pas présenté d'emblée, mais vous êtes aussi conseiller du service de soutien aux étudiants en situation de handicap à l'Université de Montréal.
Donc, oui, je suis le coordonnateur du SESH.
Oui.
Et je suis aussi conseiller d'orientation. J'ai fait beaucoup de processus d'orientation pour les personnes en situation de handicap.
Bon, bien.
Alors,
on revient maintenant à ces profs que vous côtoyez, que vous formez, enfin, vous et les autres, là, disons, mm-hmm. je vous pose la question, est-ce qu'ils reçoivent bien non seulement cette nouvelle réalité, mais les changements qu'ils doivent apporter à leur enseignement, qu'ils parfois considèrent comme sacrés ou... comment ça se passe? Est-ce qu'ils accueillent bien ça, les professeurs?
Ben, je vous dirais que ici à l'Université de Montréal, oui, généralement c'est bien accueilli. Quand il y a des discussions ou quand les professeurs, notamment, sont pas tout à fait en accord avec un accommodement ou se questionnent en fait, ben nous il parle au conseiller mm-hmm. et le conseiller essaie de voir un petit peu, bon ben si l'accommodement ne peut pas fonctionner, est-ce que il y a un autre moyen qu'on peut utiliser? Parce qu'on a une obligation d'accommodement, mais on n'a pas une obligation de résultat.
Voilà, donc il faut entendre, écouter, proposer des changements, mais ça ne veut pas dire que ces changements-là vont être parfaits pour les élèves ou les étudiants.
Bien, c'est ce qu'on tente. En fait, c'est ce qu'on tente. En regard de leurs difficultés et les objectifs académiques qu'ils ont à atteindre, on regarde le meilleur moyen possible pour qu'ils puissent atteindre les objectifs. Parce que nos étudiants en situation de handicap ne font pas fi des règles et des objectifs à atteindre.
Ouais.
C'est toujours de trouver le moyen. Puis c'est une réciprocité, en fait. C'est, on propose et l'étudiant, par la suite de communication, dis oui, j'accepte cet accommodement-là.
Je comprends. Et donc, la clé de ces succès-là, c'est qu'on en parle tôt, hein? C'est bien ça? Quand
Absolument.
On arrive comme étudiant, on en parle trop tôt au professeur et on espère que ça va bien fonctionner. Écoutez, on aurait pu parler davantage de cette situation qui ne va pas en rester là. On va continuer d'en jaser dans les prochaines années, entre autres parce qu'il manque peut-être un peu d'argent dans le système, soyons honnêtes, hein, pour bien accommoder.
Oui.
Bon,
ben,
on pourra reparler.
À date, on est comme au niveau du financement, ça va. C'est juste qu'on a des craintes par rapport à ce qui va s'en venir, étant donné l'augmentation, est-ce que les budgets vont demeurer. Mais moi, je pense qu'on assiste à un mouvement de société qui est quand même intéressant, puis de former des étudiants en situation de handicap dans les milieux universitaires et cégep. Moi, je trouve ça merveilleux, l'inclusion que notre société choisit de
faire. Mais c'est probablement pour ça que vous faites ce que vous faites aujourd'hui. C'est parce que, comme beaucoup de gens, vous espérez que l'inclusion va advenir, puis ça passe par l'éducation.
Mm-hmm, absolument.
Voilà. Nicolas Fortin, responsable et conseiller du service de soutien aux étudiants en situation de handicap de l'UDM et vice-président de l'Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap. Merci, M. Fortin.
Merci beaucoup, M. Razet. Bonjour.
Bonjour. L'occasion était trop belle d'inviter l'INCA. On a une fabuleuse application offerte gratuitement sur App Store depuis 2 mois. Une application qui lit du texte très facilement, qui détecte la lumière et qui détecte même des choses, disons, intangibles. Donc, j'arrête de vendre des punchs à l'instant et je laisse Robert Savard, spécialiste en technologie adaptée à l'INCA, vous présenter Seeing AI. Bonjour, Monsieur Savard.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va bien. Content que vous soyez là de nouveau. Qu'est-ce que l'application Seeing AI?
OK, l'application Seeing AI, c'est une application qui est très récente, qui a été développée par la compagnie Microsoft.
Mm-hmm.
C'est une application qui utilise les dernières avancées au niveau de l'intelligence artificielle.
Ah oui, rien de moins.
Oui, oui, effectivement. Et c'est une application qui est gratuite. Qu'on installe dans notre iPhone. Malheureusement, c'est pas encore offert là sur les téléphones Android.
Ouais.
Et c'est une application actuellement qui est offerte seulement en anglais, mais je considère qu'elle fait tellement bien le travail que ça vaut la peine d'en parler. Il y a des gens là, qui peuvent l'utiliser là, en français.
Okay. Elle peut lire le français, c'est ça?
Ça peut lire le français. En réalité, c'est une application qui a 9 fonctions différentes.
Ah oui, à ce point-là?
Oui. Alors, la première fonction, c'est vraiment, on pointe avec notre caméra de notre téléphone du texte et automatiquement, il va nous lire le texte que nous pointons.
Wow!
Ça, c'est bien entendu, ça va le lire en français.
Bien
la ça. Deuxième fonction, c'est vraiment une fonction de reconnaissance de documents. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre téléphone au-dessus d'une feuille de papier imprimé 8,5 par 11, et là, on va lever le téléphone dans les airs, et il va pouvoir nous guider vocalement, nous dire, il manque la bordure gauche sur la feuille, il manque la bordure droite. Alors, il va nous donner comme des points de référence pour pouvoir se retrouver. Et dès qu'il voit les 4 bordures de la feuille, il prend la photo automatiquement, il fait la reconnaissance de caractère et après ça, nous pouvons lui faire lire le texte.
Donc, c'est vraiment, même pour les personnes qui sont complètement aveugles ou
Oui.
qui ont une déficience visuelle complète.
Oui, tout à fait.
Et ça peut aider tous les autres aussi, là.
Ça peut aider en réalité beaucoup de monde.
Mm-hmm.
On peut ensuite, une fois que le document a été numérisé, on peut le sauvegarder.
Mm-hmm.
Ça aussi, bien entendu, on va pouvoir le scanner en français. Et mais il y a d'autres fonctions aussi qu'on peut avoir là avec cette application-là. Nous avons une fonction qui permet de scanner ou de numériser les codes barres qu'on va retrouver sur les produits là,
ah,
en
oui.
magasin. Alors, par exemple, si on prend une boîte de conserve, dès qu'on met l'application là sur produits, ben, products en anglais,
mm-hmm.
et là, il va pouvoir, dès qu'on tourne la boîte de conserve, il va pouvoir nous guider avec des petits bips audio. Et plus on approche du code barre, plus les bips audio sont rapprochés. Et là, à un moment donné, lorsque le code barre est vraiment vis-à-vis la caméra, il prend une photo et il va nous dire c'est quoi le produit.
Oui.
Alors, ça aussi, c'est très intéressant. C'est sûr que la description du produit, elle va être en anglais
mm-hmm.
pour le moment.
Bon. Mais il y a quelque chose de plus fabuleux qui ne sera peut-être pas possible d'avoir en français tout de suite, là, mais qui m'a vraiment sidéré. Pas sidéré, mais je veux dire impressionné. Cette machine-là peut reconnaître, ou cette application-là peut reconnaître les émotions.
Oui, effectivement. Donc, il y a une fonction qui s'appelle « Personne ». Et lorsque on utilise cette fonction-là, il s'agit qu'on pointe une personne et il va nous dire, par exemple, c'est une femme de 49 ans et elle est triste. Il peut aussi faire la reconnaissance de nos amis. Si on a configuré l'appareil, on prend trois fois la photo d'un ami et on lui associe un nom.
Mm-hmm.
Et lorsque la caméra va voir cette personne-là, il va nous dire le nom de la personne en question.
Et c'est fabuleux. Mais est-ce que ça pourrait, parce que je pense aux applications possibles, les personnes qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme, là, est-ce qu'ils pourraient utiliser cette application-là là, pour les émotions?
Ben moi, je pense que oui, effectivement. C'est intéressant, en fait, pour plusieurs types d'handicap.
Mm-hmm.
Et oui, c'est vraiment... c'est sûr qu'offert toujours en anglais, là, cette fonction-là.
Oui.
Mais c'est quand même très intéressant. Ça fonctionne relativement assez bien.
Oui, pardon, allez-y.
Il y a une fonction plus expérimentale là, qui est la fonction scène.
Mm-hmm.
Lorsqu'on prend une photo d'un paysage ou d'un endroit, bien, il va nous donner la description. Par exemple, il pourrait dire « c'est une personne qui est en train de lire un livre sous un arbre ». Ça fonctionne plus ou moins, mais...
Ouais. Mais c'est à l'étape exploratoire, mais c'est fabuleux de possibilités.
Oui, ça lit les billets de banque. Alors, il y a un lecteur de billets de banque qui est intégré dedans.
Mm-hmm.
Ça, il fonctionne relativement assez bien.
Mm-hmm.
Vous avez aussi un détecteur de luminosité.
Ah, ça, c'est important aussi. Quand même.
Donc, c'est une tonalité qui va changer. Plus il fait clair, ben, mm-hmm. plus c'est aigu, plus c'est sombre, plus le son va être grave.
Mm-hmm.
Comme ça, ben, on peut savoir, là, ceux qui ont vraiment aucune perception lumineuse
mm-hmm.
vont pouvoir utiliser cette fonction-là.
Écoutez, il y a des tonnes de possibilités. On arrive bientôt à la fin de cette chronique. Je dois vous poser la question.
Oui.
Est-ce que ça sera offert prochainement en français? Ou à tout le moins, est-ce que vous travaillez dans le sens pour aider, pour faire pression sur Apple ou...
Oui. En fait, oui, on a fait des demandes là auprès de... C'est plus Microsoft là, qui développe le produit. Alors, auprès de Microsoft, pour qu'il soit offert en français.
Mm-hmm.
Mais pour le moment, là, dans les prochains mois, non.
Mm.
Mais ils vont le prévoir. Ils prévoient l'offrir là, dans plusieurs langues, là, peut-être l'an prochain ou dans deux ans. Là.
Donc, en quelques secondes, dites-nous, rappelez-nous cette application extraordinaire, où on peut la trouver, et c'est Seeing AI, hein, qu'on dit.
Oui, je vais l'épeler. C'est S-E-E-I-N-G espace A-I. Et vous allez la retrouver dans l'App Store de votre téléphone iPhone.
Mm-hmm. Donc, c'est très simple. Mais il faut quand même avoir le iPhone. Malheureusement, c'est très performant, le iPhone, hein, pour les personnes aveugles, de ce que j'en comprends.
Oui, effectivement.
Puis là, c'est une application, mais...
C'est vraiment une des meilleures applications là, qui est offerte là, pour les personnes qui ont un handicap visuel. Et si vous voulez plus de détails, ben moi, je vous recommande de communiquer à l'INCA.
Bien sûr.
M'appeler. Et à ce moment-là, ben, je pourrai vous aider. Là.
Robert Savard, vous êtes toujours d'un grand aide. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes spécialiste en technologie adaptée à l'INCA. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Le mouvement Mot-Clic MeToo est maintenant notre solidarité avec le Mot-Clic et maintenant. Voyage beaucoup, on en parle dans les médias, mais évidemment, il y a toutes sortes de déclinaisons à ces violences, à ces agressions possibles. Non seulement c'est plus fréquent aussi chez les femmes en situation de handicap et aussi même les hommes en situation de handicap, mais ça peut se trouver, advenir, ces agressions, ces situations d'agression dans le milieu de travail. Et donc, qui de mieux que Sonia Boucher, sexologue à domicile, pour nous en parler, pour nous aider peut-être à prévenir ou mieux comprendre. Bonjour Sonia Boucher.
Bonjour Benoît, ça va bien?
Ben ça va bien, merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir, j'en profite pour souhaiter une bonne année 2018 à toute l'équipe, c'est ma première intervention cette année.
Oui, ben merci, ça fait du bien de les recevoir encore, même si c'est dans un mouvement mi-figue, mi-raisin. On s'est vraiment arraché le cœur dans MeToo et on essaie de se le recoller collectivement avec et maintenant. Mais donc, vous allez nous présenter un cas ou un cas type qui pourrait advenir en milieu de travail.
Oui, absolument. Je veux quand même aviser que, évidemment, tous les cas d'agression sexuelle, c'est des cas lourds. Donc,
oui.
C'est sûr que c'est pas une chronique facile aujourd'hui.
Oui.
Ça vient présenter. Et aussi, évidemment, j'ai changé le nom, les dates de la personne.
Bien sûr. Merci beaucoup.
Donc, je vais y aller avec une lecture. Ça va être plus simple.
Mm-hmm.
Je vous parle de José, qui a 19 ans, qui travaille pour la première fois de sa vie.
Mmh.
Elle vit avec un léger handicap visuel, puis elle se déplace avec une aide mécanique.
Ouais.
Donc, à l'usine ou à travail, ses tâches consistent surtout à vérifier le contenu des commandes avant leur expédition.
Okay.
Son patron la complimente souvent du fait qu'elle est efficace, mais depuis peu, il ajoute qu'elle est docile, qu'elle a un caractère facile et agréable.
Mmh.
Et il la complimente de plus en plus sur ses attributs physiques. La semaine dernière, on comprend que c'est fictif, José et son patron étaient seuls dans le local d'expédition et il lui a proposé de l'aide pour passer à travers une grosse commande pour éviter qu'elle se déplace. Donc, déjà dans la tête de José, il y avait un doute sur le capacitisme que faisait preuve son patron.
Ouais.
Et pendant la même journée, a décidé de verrouiller la porte du local pour qu'ils dînent toutes les deux ensemble pour faire plus connaissance.
Verrouiller?
Oui. Carrément verrouiller la porte du local où les deux étaient pour qu'ils puissent dîner ensemble, faire plus connaissance. Il disait qu'il voulait bien prendre soin d'elle, que c'était sa meilleure employée. Et toujours aussi nerveuse, elle a voulu aller dîner avec les autres. Et un commentaire de son patron l'a fait titiller un peu sur la suite de la journée parce qu'il a dit « ça va t'éviter de te déplacer là avec ta jambe, tu n'auras pas besoin d'aller dîner avec les autres, on va être tranquille ici ». Donc ça l'a déjà agacé et son inquiétude s'est amplifiée quand elle a remarqué qu'il avait frôlé ses fesses, frôlé ses seins, etc., etc. Et au courant de la journée, finalement, il y a vraiment eu des attouchements sexuels envers la personne de José. José a resté totalement paralysée par la peur. Elle n'arrivait même plus à bouger quand c'est arrivé, comme c'est son premier emploi. Mm-hmm. C'est sûr que dans cette histoire-là, José a eu la chance de reconnaître que son patron avait tort.
Oui, elle l'a senti tout de suite. Oui,
ouais, elle l'a senti par rapport à ses propos, mm-hmm. ses attouchements, qu'il n'avait pas le droit de la toucher parce qu'elle n'était pas consentante à ça, mm-hmm. et que même si c'était son premier travail, elle devait agir. Ouais. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Ça n'a pas empêché la situation d'arriver.
Ouais.
Mais au moins, José a pu, après, aller chercher de l'aide, du support, porter plainte à la police. Mm-hmm. Malheureusement, la plupart des personnes en situation de handicap n'ont pas la chance d'avoir une éducation à la sexualité adéquate. C'est souvent des sujets qui sont évités.
Oui.
Donc, pour une
même condamnés, parfois.
Oui, absolument. Alors, ouais.
On ne parle pas de l'agression, mais je veux dire, on condamne même la possibilité pour elles, pour ces personnes, d'avoir une sexualité. Là. Bon.
Oui, absolument. Donc, encore moins parler d'agression. Ou si on parle juste d'agression, de nos côtés, on ne parle pas de la sexualité saine. Mm-hmm. Enfin, bref, pour une même situation, une autre personne aurait pu ne pas voir venir le danger, se sentir coupable, pas être en mesure de dénoncer et même rester au travail et continuer de subir les agressions. Mm-hmm. Donc, pour être capable d'agir face à ça, il faut connaître nos droits, connaître qu'est-ce que c'est que la violation des droits, puis avoir l'accès, le droit à l'information et à l'éducation.
Est-ce qu'il y aurait un endroit, j'oserais dire, simple, à part votre bureau, là, ou vous-même qui vous déplacez comme sexologue, parce qu'évidemment, dans un premier temps, une agression, on doit porter plainte à la police, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a un endroit aussi où on peut avoir du support brièvement?
Oui, absolument. En fait, la plupart des endroits où il y a des intervenants psychosociaux devraient fournir le support nécessaire pour passer à travers une telle situation, mm-hmm. ou du moins pour nous renseigner, nous guider. Hein, ça fait partie du rôle des intervenants. Ils ont l'obligation de au moins soutenir la personne.
Bien sûr.
Donc, on parle toujours arriver à des résultats. Ils n'ont pas d'obligation de résultat, évidemment, mais ils ont une obligation d'agir.
Donc, on parle ici d'intervenants psychosociaux dans les CLSC, dans le système de santé, entre autres?
Absolument. Tous les établissements ici de santé, oui, on a cette obligation-là. Maintenant, est-ce que tout le monde est outillé pour faire face à ça? C'est un autre sujet.
Et c'est une question qu'on pourra explorer à un autre moment.
Absolument.
Sonia Boucher, merci de nous avoir fait comprendre la subtilité et la non-subtilité de ces agressions au milieu de travail. On n'oublie pas qu'on doit se référer à un professionnel et porter plainte à la police quand on en a la force. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Oui, on peut absolument dire ça comme ça.
Merci beaucoup, Sonia Boucher, sexologue à domicile. Et on ajoutera « et maintenant » pour signer la déclaration contre les agressions sexuelles
absolument
en plus
sur,
de votre clinique.
Et maintenant.net. Oui, absolument.
Et maintenant.net.
Merci beaucoup.
Merci, Sonia Boucher.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
semaine, est-ce que la neige vous empêche de sortir de chez vous? Que devrait-on faire pour faciliter les déplacements de tous et toutes en hiver?
Et cette question nous donne froid dans le dos, parfois. L'hiver, c'est beau l'hiver, mais beaucoup de gens sont empêchés de sortir à cause du déneigement. Donc, si vous êtes une personne âgée, que vous présentez des difficultés à marcher ou encore que vous êtes une personne aveugle, vous avez encore plus de défis de sortir de chez vous. Eh bien là, même, vous êtes peut-être condamné à écouter cette émission de radio. C'est d'une tristesse. Non, mais sérieusement, on parle de déneigement avec trois personnes qui sont reliées un peu par ce qu'on appelle l'escouade neige. On en reparle un peu plus tard. Avec nous, Luc Forget, conseiller en accessibilité architecturale et urbaine pour Execo. Bonjour, Luc Forget.
Bonjour.
Émilie Lefrançois, agente de défense de droit toujours chez Execo, qui est responsable avec Luc de l'escouade neige.
Bonjour.
Bonjour, Émilie. Et au téléphone avec nous, Florence Pardeau, qui est non seulement une personne aveugle, mais qui est aussi coordonnatrice de l'organisme Action des femmes handicapées Montréal. Et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Elle est membre de cette escouade neige. Bonjour, Florence Pardeau.
Bonjour.
Merci d'être là de nouveau. En fait, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé.
Oui.
Et donc, je vous pose la question tout de go, puisque vous vivez l'hiver et ses déneigements comme personne aveugle. Donc, comment ça va actuellement pour vous? Quel genre d'impact ça a, le déneigement ou le mauvais déneigement, sur, disons, votre vie quotidienne?
Les déplacements en hiver, pour moi, c'est un très, très grand défi.
Ah oui.
En fait, il y a une grande différence entre les trois autres saisons et l'hiver. C'est comme si je suis pas la même personne. C'est difficile au niveau déplacement. Ça devient très lent, très ardu. Il y a beaucoup de stress qui embarque là-dedans. Mm-hmm. Et ça arrive même que ce soit dangereux.
Ah oui.
Donc, c'est sûr et certain que tout n'est pas lugubre. Il y a quand même un travail de déneigement qui se fait, mais c'est sûr que quand j'ai entendu parler de l'escouade neige, j'ai trouvé que c'était formidable comme idée,
ouais.
Parce que il y a vraiment place à amélioration. Parce que je me dis, c'est pas parce que on arrive du point A au point B sans tomber, là,
mm-hmm.
qu'on mérite de vivre ça. Ça peut être vraiment difficile, malheureusement.
Oui, parce qu'en fait, vous parlez de tomber, mais il y a beaucoup autre chose. Là. De manière concrète, là, c'est quoi le danger auquel vous êtes exposé quand il y a des grosses neiges là, comme il y en a eu en décembre, par exemple?
Oui. Eh bien, il y a, d'abord le déneigement des trottoirs eux-mêmes, se mm-hmm. déplacer sur le trottoir. Si c'est mal déneigé et qu'on ne voit pas bien, heureusement pour moi, j'ai un résidu visuel qui m'aide,
mm-hmm.
mais c'est très difficile de s'orienter,
oui.
Difficile de monter dans l'autobus. Mais ce qui est vraiment, vraiment dur pour moi personnellement, c'est la glace.
Oui.
Parce qu'on ne voit pas. Je me sers uniquement de mes pieds pour savoir, et c'est chaque pas est une nouvelle surprise,
oui.
pour savoir est-ce qu'il y a de la glace ou pas.
Mm.
Donc, c'est certain que c'est ce qui me cause, moi personnellement, ayant une déficience visuelle, des problèmes, mais vos deux autres invités vont vous parler aussi. Il y a tous les autres profils,
oui.
les personnes
oui, parce
à mobilité réduite et tout ça. Oui.
Pendant que vous parliez, j'imaginais les gens qui nous écoutent, et même si on n'a aucune déficience visuelle, si on est relativement mobile, on est obligé de surveiller à chaque glace qui se dresse devant, qui se présente devant nous. Donc, j'imagine la cadence avec laquelle vous êtes obligé de marcher pour vous assurer de ne pas glisser sur une petite glace qui se serait présentée devant vous, là.
C'est très lent.
C'est très lent, bon.
Oui,
alors...
très lent. Et puis souvent, c'est comique parce que quand on travaille, on a des défis au travail,
mm-hmm.
n'est-ce pas? Mais parfois, c'est plus dur de se rendre. Puis une fois que tu es rendu, tu es correct.
Oui,
donc, c'est un petit peu trop de stress, je crois.
Oui, effectivement.
Puis, donc, il y a vraiment place à amélioration. Oui.
Donc, on entend l'ampleur du défi, disons ça comme ça. Luc Forget, qui est conseiller en accessibilité architecturale et urbaine à Montréal et pour l'organisme Execo, est aussi avec nous. Bon, Vous vivez, faut que je le dise d'abord, Luc Forget, vous vivez l'hiver tout aussi difficilement que d'autres, là, puisque vous vous transportez en triporteur. Mais aujourd'hui, je fais appel à vous, plutôt comme expert et défenseur, promoteur des droits, qui avait travaillé depuis plusieurs années sur la question du déneigement à Montréal, en essayant de sensibiliser les élus et, bon, la ville. Est-ce que vous diriez que, parce que là, ce qu'elle dépeint Florence Pardot aujourd'hui, c'est pas génial, est-ce que vous diriez que ça a évolué, le changement des mentalités, à la ville de Montréal, dans le déneigement, en prenant en compte les besoins des personnes handicapées?
Oui, ça a évolué, parce que depuis plusieurs années, on est en relation avec un service qui s'appelle le service de concertation des arrondissements, mm-hmm. qui s'occupe du déneigement à la ville de Montréal. On a travaillé avec eux pour sensibiliser, parler d'accessibilité universelle mm-hmm. au col bleu.
Oui. Ah oui, vous avez fait même la formation avec les
C'est ça, oui. De la formation et tout ça. Mais bon, il reste encore beaucoup de travail à faire parce que, bon, il y a une grande partie du déneigement qui est fait par des privés.
Ah oui.
Donc,
est-ce que c'est important, ça? Il y a beaucoup, beaucoup de déneigement.
Moi, je dirais au moins la moitié.
Ah, mais c'est énorme! Donc, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas accès aux formations que vous pourriez donner, par exemple.
C'est ça, mm-hmm. c'est ça. Et c'est important. Bon, il y a eu une évolution à partir de nos premières approches, là.
Oui. Mais ça remonte à quand, ça, ces premières approches-là?
Il y a peut-être 6 ans.
OK.
Et il reste beaucoup de travail à faire.
Mais il y a 6 ans, est-ce qu'ils en avaient déjà entendu parler? Est-ce que les gens des services...
Non, pas du tout. Non, c'est drôle. Quand on a contacté le service qui faisait de la formation mm-hmm. Auprès de l'École bleue, certains formateurs nous disaient, c'est drôle, on n'a jamais parlé des individus. Mm. On parlait comment pousser la neige, s'en débarrasser, l'enlever dans le chemin, mais on n'a jamais pensé parler pour qui on fait ça.
Ah, c'est... Donc, lourd de sens quand même.
Là, c'est ça. Ouais. C'est devenu un élément important dans la formation entre les fondants et la nouvelle machinerie. ils parlent pour qui ils tassent la neige, puis comment les citoyens de la ville ont à vivre ça. Là.
Mm-hmm. C'est fascinant d'entendre ça. Effectivement, souvent, on est collé sur notre métier. Et ces gens-là avaient plus l'impression qu'ils travaillaient avec une machine et la neige elle-même, mais ils n'ont pas pensé que les gens se déplacent grâce au déneigement. Intéressant, très intéressant.
Ils nous ont aidés à monter des vidéos pour sensibiliser l'École bleue lors de leur formation et tout ça. Là.
OK. Mais l'École bleue, on entend, c'est eux qui font vraiment le travail en bas, là, qui font le vrai travail, disons-le, mais il faut sensibiliser bien du monde en le col bleu, puis la mairesse, mettons.
Oui.
Vous avez quand même fait quelques démarches en ce sens-là.
On a fait beaucoup de démarches, puis on en a surtout fait autour, il y a 2 ans, il y a une politique sur le déneigement qui est à la ville de Montréal. Mm-hmm. Puis on a fait beaucoup de sensibilisation afin d'inclure à la politique, l'accessibilité universelle. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Là, il y a beaucoup de paragraphes parlant d'accessibilité
universelle. Il n'y en avait pas du tout avant, mais là, il y en
non.
a.
Mais bon, qu'est-ce que ça donne? Mm. Et c'est ça, les actions qu'on est en train. On tente un peu le terrain. Mm-hmm. On veut savoir où est-ce qu'on en est avec le déneigement depuis la politique qui est arrivée en août 2015.
En 2015. Donc, il faut, au-delà de la politique, au-delà des sensibilisations faites, s'assurer que sur le plancher, là, la neige est proprement enlevée, qu'elle ne devient pas des obstacles pour des tonnes de personnes aînées, personnes en situation de handicap qui ont une déficience motrice ou personnes aveugles. Et c'est pour ça qu'on est avec Florence Pardot, qui est membre de l'Escouade Neige, Luc Forget et Émilie Lefrançois, vous êtes avec nous puisque vous êtes responsable de l'Escouade Neige. Donc, on essaie de comprendre dans quelques instants qu'est-ce que ça mange en hiver, l'Escouade Neige.
Samedi matin, il est tombé 3 pieds de neige. Ça se promène en raquette dans les rues de Montréal. Même que mon voisin est sorti de ses pantoufles pour dire au monde c'est rien à côté de suis pas pressée, je regarde les pelleteux qui se défoulent. Mon bazou d'or, ben au chaud dans son igloo, j'en profite pendant qu'il me fait pas trop. Devant chez nous habite un vieux français, il perd ses mots dépassés par les événements. Et il s'est levé du mauvais pied, en a échappé son dentier, en a même perdu son accent. Ça se promène en traîneau partout à Val d'Or. Le gars de la gratte est débordé, mais positif, il dit au monde, c'est rien à côté du lac Castor. Tout est fermé ici dans un coin, le village ramasse au magasin général. On boit du vin de dépanneur, à quelle horreur pour les bons buveurs, mais là faut calmer les rafales. Quand j'y vois les
Question de la semaine, est-ce que la neige vous empêche de sortir de chez vous? Que devrait-on faire pour faciliter les déplacements de tous et toutes en hiver?
Et n'oubliez pas que vous pouvez répondre à la question en allant visiter canalm.vuesetvoix.com. Déjà, beaucoup de gens l'ont fait, mais il y a des gens ici en studio qui œuvrent à quelque chose comme une solution pour améliorer le déneigement et faire de nos hivers des moments un petit peu moins désagréables. Alors, en studio est avec nous Luc Forget, conseiller en accessibilité architecturale et urbaine pour Execo. Et il y a aussi Florence Pardo qui participe à cette escouade neige dont on va parler bientôt, en plus d'être elle-même une défenseuse des droits. Hein? Bonjour, rebonjour Florence.
Bonjour.
Et plus particulièrement, je m'adresserai maintenant à Émilie Lefrançois, qui est agente de défense de droits chez Execo et qui est responsable d'escouade neige. Alors, je l'ai dit deux, trois fois là, pour qu'on pige, escouade neige, c'est quoi exactement?
Oui, en fait, l'escouade neige, c'est un outil qu'on a élaboré chez Execo, puis qu'on a ensuite soumis à des partenaires, notamment le regroupement des aveugles et Amblyop du Québec, et donc l'ATACEM, donc la table de concertation des aînés de l'île de Montréal, pour aller consulter les gens qui ont des limitations fonctionnelles, aller les sonder sur les obstacles qu'ils rencontrent en période hivernale, notamment en raison des précipitations et des pratiques de déneigement qui sont, disons, pour le moins imparfaites.
Oui.
Plus concrètement, là, c'est un questionnaire en ligne, un sondage qu'on a monté sur la plateforme SurveyMonkey et qu'on a commencé à diffuser depuis la mi-décembre dans nos réseaux. auprès des personnes donc, qui ont soit une déficience motrice, une déficience visuelle ou des personnes aînées.
Mm-hmm.
Et puis, au moment où on se parle, on a déjà reçu là, plus d'une centaine d'observations.
Ah oui?
Oui, on espère que ça va continuer à rentrer encore le temps qu'il va y avoir des chutes de neige. Puis, on profite de l'occasion justement pour inviter toutes les personnes qui s'identifieraient là, à l'un des groupes que j'ai nommés et qui veulent se joindre à l'aventure là, à le faire.
Mm-hmm.
Le questionnaire va continuer d'être en ligne et disponible. Encore plus précisément, on a identifié là, 7 blocs sujets, 7 groupes d'éléments qui font l'objet de questions dans le sondage,
mm-hmm.
Notamment les débarcadères pour personnes en situation de handicap.
Ça, c'est important. Puis rappelons que c'est entre autres Ex-Éco qui a demandé est-ce que ça soit inclus dans la politique de déneigement de 2015 de Montréal. Mais il faut quand même être sûr que ces débarcadères-là, ils sont déneigés.
Exactement. Mm. Donc, ces débarcadères-là, c'est des débarcadères devant les résidences privées pour lesquelles les gens doivent faire une demande eux-mêmes auprès de l'arrondissement.
Ah, c'est ça. Rappelons, les gens peuvent obtenir un débarcadère après avoir demandé, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Okay. Mais bon, comme on l'a dit brièvement, le déneigement n'est pas assuré.
Mm-hmm.
Nous, la demande qu'on fait, c'est que ces débarcadères-là soient déneigés en même temps que le trottoir.
Ah oui.
Pour qu'ils soient disponibles et utilisables dès que les premiers véhicules de déneigement ont commencé leur travail. On a également des questions sur le débarcadère de la STM, ceux mm-hmm. qui sont sur le domaine public utilisés pour le transport adapté. Des questions aussi sur le déneigement aux intersections, donc les bateaux pavés qui sont
ah oui.
très importants.
Les bateaux pavés, pour que les gens comprennent, là, c'est les descentes de trottoirs.
Exact.
Hein, qui sont à la fois aménagés pour être repérables par les personnes aveugles, mais aussi pour ne pas être des obstacles pour ceux qui auraient une petite affaire de misère à monter là. Sur le trottoir. Bon.
Voilà. Puis on voit que souvent, ben, il y a des bancs de neige justement à cet endroit-là qui empêchent leur utilisation.
Mm-hmm.
Sinon, on a également des questions sur les trottoirs en tant que tels. Donc, est-ce qu'ils sont glissants? Est-ce qu'il y a des bancs de neige qui empêchent la circulation, etc.?
Okay.
Des questions sur les arrêts d'autobus. Parce qu'on sait que la STM fait beaucoup d'efforts pour rajeunir sa flotte d'autobus et fournir des autobus qui ont des rampes d'accès qui peuvent être déployées.
Mm.
On se rend compte que souvent, l'hiver, justement, ces rampes-là devrait permettre l'utilisation du réseau standard par les personnes à mobilité réduite. Ils ne sont pas déployables. Donc, les rampes mm-hmm. ne sont pas déployables.
À cause de mottes de neige, disons-le aussi
voilà.
Cavalièrement. Donc, que ça soit déneigé, ces intersections-là, ces espaces-là où on prend l'autobus, les débarcadères devant la maison, tout ça, ça doit être déneigé.
Oui.
Les gens que vous avez consultés là, depuis la mi-décembre, ils vous disent quoi? Ça va-tu bien, le déneigement? Est-ce que y a-tu des endroits où c'est pire que d'autres?
Je dirais que sur tous les sujets que j'ai nommés, là, les observations sont assez négatives à l'heure actuelle.
Ah ouais.
Donc, il y a encore énormément de travail à faire. C'est certain que chez Ex-Éco, je pense qu'on a réussi à rejoindre plus de gens qui ont une déficience motrice.
Mm-hmm.
Et ce sont des personnes qui utilisent fréquemment les débarcadères. Donc, c'est un objet de plaintes là, très, très fréquent. Dans la quasi-totalité des cas, lorsque le trottoir est déneigé, le débarcadère ne l'est pas.
Mm-hmm.
Et les gens sont très insatisfaits. Même chose, encore une fois, pour les bateaux pavés.
Mm.
On a lancé une invitation aux gens à nous fournir des observations qui sont positives aussi lorsque mm-hmm. la situation sur le terrain est correcte, puis qu'ils voient des choses positives, justement.
Ouais.
Mais malheureusement, on
il n'y en a pas trop.
Non, il n'y en a pas trop. On ne se rue pas aux portes pour ça.
On a entendu par ailleurs dans votre message qu'il y a beaucoup les personnes qui ont des déficiences motrices, les personnes âgées qui répondent. Il faut dire aussi que vous avez l'aide des coordonnateurs de la STM, là, du transport adapté, parce que eux, ils constatent souvent là, quand un débarcadère n'est pas déneigé, ils ne peuvent pas embarquer la personne de manière sécuritaire, c'est important.
Oui.
Moi, j'aurais envie de parler aux personnes aveugles et comme on a entre autres avec nous Florence Pardot, je vous pose la question tout de go, Florence. Ça se passe comment en décembre? Vous avez fait beaucoup de signalements. Comment vous trouvez la situation actuellement?
Cette année, ben c'est difficile, je vais mm-hmm. dire. Je vais pas dire que c'est complètement mauvais. Là. Il y a mm-hmm. de bonnes choses. Je vais prendre, par exemple, il y a une bordée de neige, je pense, le 14 janvier. Là.
Ouais.
Donc, le 15, je m'en allais travailler.
Mm.
Puis ça, une fois que j'ai rempli le sondage,
mm-hmm.
C'était déneigé, le trottoir, mais imparfaitement.
Mm-hmm.
Il restait des motons. Puis, à cause des précipitations précédente, il y avait de la glace de paravent qui était encore là, en dessous de la neige.
Et la glace, c'est vraiment l'ennemi, là.
Oui, oui, c'est ça. Pour monter l'autobus, c'était pas possible. L'autobus a dû aller plus loin que l'arrêt et être un peu dans la rue, passer les bancs de neige pour qu'on puisse monter. Puis dans ce temps-là, les gens à l'arrêt vont m'aider un peu. Bon, c'était gentil, mais idéalement, on aimerait être autonome, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Des problèmes avec les intersections où il y a un peu glissant et tout ça. Donc ça, c'est un exemple de la participation que j'ai eue. Parce qu'avant ça, j'ai été grippée, donc j'ai pas pu remplir le sondage. Bon. Mais c'est un exemple. Donc, on vous parle de centaines de personnes qui ont répondu.
Et d'ailleurs, on encourage encore les gens, les personnes aveugles, entre autres, à identifier le déneigement face à chez eux, sur les trottoirs. Il est possible d'accéder. Nous, on va mettre sur canalem.vusezvoix.com le lien vers le sondage, qui est accessible d'ailleurs, pas exactement universellement accessible, mais qui répond à de très bons standards pour que les personnes aveugles puissent le faire sans problème. Vous n'avez pas de problème à le remplir?
Oui, il est correct. Il est vraiment correct.
OK. on a votre certitude. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces données-là qu'on collecte? Parce que vous amassez aussi ces informations-là, ces observations-là, par arrondissement. Donc, on va pouvoir identifier les lieux qui sont les plus problématiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Je parle bien sûr à Luc Forget ou à Émilie Lefrançois d'Exéco.
Écoutez, c'est qu'on a besoin de ça pour compiler. Oui. Parce que, bon, c'est bien beau qu'on dise « Ah, les débarcadères ne sont pas déneigés. Mm-hmm. Il y a des problèmes au coin des rues. » Oui, oui, mais dans quel ordre?
Oui.
Tu sais, il faut qu'on ait un nombre.
Oui.
Si on dit que 90% des observations sont négatives. Mm. Donc, on aura du poids.
Ouais.
Quand on va retourner près du service de concertation des arrondissements, on aura un outil en main.
Mm-hmm. Puis on va pouvoir être plus fin aussi dans les revendications. Là.
Présentement, c'est que des impressions qu'on a.
Des impressions, oui et non. Des fois, on ne peut pas juste sortir de chez soi. Là. assez non équivoque.
Dans quel ordre?
Oui, OK.
Est-ce que c'est qu'une seule personne, ou c'est tout le monde qui vit ça?
Bien sûr. Et j'aimerais ça qu'on reprécise une dernière fois avant de se quitter, puisque c'est un magnifique projet. On espère même que ça soit exporté. Hein. Les gens qui nous écoutent à travers le Canada, une escouade comme ça, c'est agréable. Je pense qu'Exéco est prêt à travailler avec quiconque veut l'utiliser. Mais je reviendrai vers Émilie Lefrançois. Comment on fait pour participer à cette escouade-là ou y prendre part?
Nous, de notre côté, on a vraiment essayé que ce soit le plus simple possible. Mm-hmm. Donc, il n'est pas nécessaire de s'inscrire ou d'être membre d'un des trois groupes que j'ai nommés initialement. Mm-hmm. Il suffit vraiment d'accéder au questionnaire et de le compléter. Mm-hmm. Puis, on ajoute également que les gens peuvent choisir les sujets qui les intéressent. Donc, s'il y a un des 7 sujets qui ne les concerne pas, c'est possible de le sauter pour vraiment donner ses impressions sur les situations qui les touchent personnellement.
Oui, puis je veux même ajouter quelque chose. Peut-être que vous allez remarquer que vous allez voir défiler toutes les sections, mais ça, c'est comme ça que ça peut être accessible pour les personnes aveugles. Donc, tu sais, des fois, on a des petits choix, là, on dit ça oui, ça non, puis là, on tombe direct au bout du questionnaire. Là, on le voit un petit peu plus long, mais c'est pas long, là. C'est combien de temps que ça prend à remplir?
Si, par exemple, quelqu'un choisissait de répondre aux sept sujets, on parle d'au plus une dizaine de minutes. Là.
C'est excellent. Alors, on met le lien. Merci beaucoup, Émilie Lefrançois, Luc Forget d'Exéco. Merci beaucoup à vous, Florence Pardo, membre de l'escouade de neige.
Merci.
Merci.
Merci. On souhaite qu'il n'y ait pas de neige, c'est ça.
C'est ça.
Vous écoutez Accès libre. Thank you.
Question de la semaine, est-ce que la neige vous empêche de sortir de chez vous? Que devrait-on faire pour faciliter les déplacements de tous et toutes en hiver?
À chaque émission, nous vous faisons découvrir un essai ou un récit à caractère historique disponible en version audio grâce à Vues et Voix. Rappelons que si vous présentez une déficience visuelle ou encore si vous avez des difficultés liées à l'apprentissage, vous pouvez profiter de ces versions adaptées. Je vous invite à entendre le quatrième de couverture du titre « Le voyant » de l'auteur Jérôme Garcin, publié chez Gallimard, produit en version audio par Vues et Voix.
Le visage en sang, Jacques hurle. « Mes yeux! Où sont mes yeux? » Il vient de les perdre à jamais. En ce jour d'azur, de lilas et de muguet, il entre dans l'obscurité où seuls, désormais, les parfums, les sons et les formes auront des couleurs. Né en 1924, aveugle à 8 ans, résistant à 17, membre du mouvement Défense de la France, Jacques Lucéran est arrêté en 1943 par la Gestapo, incarcéré à Fresnes, puis déporté à Buchenwald. Libéré après un an et demi de captivité, il écrit « Et la lumière fut » et part enseigner la littérature aux États-Unis, où il devient « The blind hero of the French Resistance ». Il meurt en 1971 dans un accident de voiture. Il avait 47 ans. 20 ans après, pour Jean Prévost, prix Médicis, essai 1994, Jérôme Garcin fait le portrait d'un autre écrivain résistant que la France a négligé et que l'histoire a oublié.
Évidemment, c'est dans notre mission de revaloriser ces personnes qui ont fait l'histoire, quoi de mieux qu'un résistant aveugle ou en situation de handicap pour cette émission, ou plutôt cette édition du livre. Le voyant de Jérôme Garcin est rendu disponible à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec par le truchement de son service québécois du livre adapté. Entendez maintenant le prologue.
1.2. J'ai découvert Jacques Lucéran avec « Et la lumière fut ». Je me souviens très bien des émotions contradictoires que j'éprouvais à la lecture de ce témoignage magistral et capital. Le récit de ce héros, qu'aucun romancier n'aurait osé inventer, n'était-il pas trop exemplaire pour être vrai? Et s'il était vrai, où donc cet homme avait-il trouvé la force surhumaine d'affronter tête haute de telles épreuves, de se dépasser sans cesse, de se survivre en rayonnant? Ce livre, qui illustrait à la perfection le concept de résilience, comment avait-il pu le rédiger sans le voir? Mon étonnement vient de ce que je suis de la vieille école. Il m'arrive souvent d'écrire à la main. J'aime tracer les mots sur des cahiers quadrillés, les remplacer ensuite par d'autres qui attendent dans la marge, biffer, corriger, peaufiner, imposer un rythme secret à ma partition, ajouter des couleurs à mes crayonnés. Je ne suis pas loin de croire que la phrase manuscrite commande la pensée, que le geste précède l'idée, que le stylo impose son style et sa loi. Et je ne commence vraiment à écrire qu'en me relisant, qu'en regardant mon feuillet. Avait-il lui-même tapé à la machine, ou plutôt dicté à une sténo ce que j'avais la faculté de lire, les yeux ouverts, dans un jardin du pays d'Auge, traversé par un ruisseau qui sentait l'herbe coupée, la menthe fraîche et l'ail des ours? Un jardin qui ouvrait sur des perspectives, massifs anglais de rosiers, de rhododendrons, de lilas, champs chahuteurs de haut maïs, collines boisées à languis, où mon regard se posait entre deux pages, comme pour s'assurer de son acuité et bien mesurer son empire provisoire. Je crois bien que dans ma vie, je n'ai jamais été si longtemps absorbé par un texte, m'arrêtant à chaque phrase, la pesant comme une petite miraculée, trouvant à chaque point-virgule, à chaque parenthèse, à chaque exclamation, à chaque alinéa, un sens et un pouvoir qui allaient bien au-delà des règles typographiques et des lois grammaticales. Tous ces mots, jaillis de la nuit absolue, avaient un éclat incomparable. Ils répandaient sur la page une lumière éblouissante presque trop crue. À travers les phrases grégoriennes passaient des couleurs de vitraux sur lesquelles tape, à midi, le soleil des dimanches chrétiens. Ajoutés les uns aux autres, les adjectifs en relief, il me semblait les toucher du doigt comme s'ils étaient en braille, dessiner une chaîne alpine, former une cordillère des Andes, inventer des rocheuses lexicales. Dieu que le blanc d'entre les lignes exhalait d'étranges et voluptueux parfums. C'était de la littérature d'avant la littérature. Elle ne tenait ni par le beau style, qui est une coquetterie de clairvoyant, ni par l'imagination, qui offre aux oisifs de tromper à la fois leur ennui et leur lecteur. Elle était le prolongement naturel d'un corps immobile, l'expression d'une pensée pure, débarrassée des images inutiles, des métaphores superflues. Lire Lucéran, c'était réapprendre à lire, comme on dirait apprendre à voir, après une opération de la cataracte.
J'espère de pas tomber en amour avec toi. L'amour, ça me fait les blouses à chaque fois. Au rythme de la musique qui joue, je sens ton cœur qui bat. Je buvais ma bière tranquille, mais là, je t'entends m'appeler tout bas. J'espère de pas tomber en amour avec toi. On est bien tassé, y a du monde partout. Si je t'offre une chaise, j'ai peur d'avoir l'air fou. Si tu t'assois avec ce gars-là, rends-y son air de bœuf. D'ici que la soirée finisse, je serai peut-être moins nerveux. J'espère de pas tomber en amour avec toi. C'est drôle l'effet que ça fait quand t'es un gars. Les trucs de phéromones pis de mâle alpha. Je me retourne juste pour te regarder dans la trolley urbaine. Je voudrais tellement aller te parler, mais on se connaît à peine. J'espère de pas tomber en amour avec toi. Je vois bien que t'es toute seule, tout autant que moi. Il se fait tard, tu voudrais peut-être qu'on se revoie. Je me retourne juste pour te regarder, tu me regardes aussi. Le gars assis à côté de toi s'en va, puis tu rougis. J'espère que tu tombes pas en amour avec moi. C'est l'heure de la fermeture, on baisse le son. Pour mon lascol, un whisky sans glaçon. Je me retourne juste pour te regarder, t'es pas là, t'es parti. Je cherche partout, je bois un coup, c'est l'histoire de ma vie. Puis je pense que je suis tombé en amour avec toi. Puis je pense que je suis tombé en amour avec toi.
Question de la semaine, est-ce que la neige vous empêche de sortir de chez vous? Que devrait-on faire pour faciliter les déplacements de tous et toutes en hiver?
Continuez de répondre à la question. N'oubliez pas, vous pouvez le faire sur canalem.vuesetvoix.com. Et tout juste à côté du droit de sortir de chez soi, disons, il y a les droits plus fondamentaux qui sont protégés, défendus par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Vous savez, c'est une institution très particulière. Elle vient d'une loi. Cette loi-là est au-dessus des autres lois. Et ça prend des gens hein, pour, j'oserais dire, l'incarner, la défendre. Et ça vient aussi avec une commission qui est composée de personnes, mais non seulement de sa présidente, son vice-président, mais des gens fort importants qui viennent de plein de milieux, qui ont toutes sortes d'expertises. Et j'ai envie aujourd'hui de vous présenter Roxane Leboeuf, qui est une de ses nouvelles membres, en fait, une membre récemment, j'oserais dire, investie comme commissaire. Bonjour, Roxane Leboeuf.
Bonjour.
Bonjour. Très content que vous soyez là. Et j'ajouterais très content que vous soyez de cette équipe.
Eh bien, moi de même. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être présente aujourd'hui.
Oui. Et je veux seulement peut-être dire aux gens d'où vous venez actuellement. Vous êtes professionnelle de recherche.
Exactement.
Et vous avez vécu toutes les étapes, je dirais, du monde de la santé, tout en défendant les personnes âgées, les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Est-ce qu'on pourrait résumer ça comme ça?
Oui, c'est un beau résumé. En fait, peut-être pour présenter mon parcours, si on veut, qu'est-ce qui m'a mené à la commission. Moi, j'ai un baccalauréat en psychoéducation. Mm-hmm. Ça m'a amené en fait à travailler, comme vous le disiez, peut-être plus dans le milieu public. J'ai travaillé dans un centre de réadaptation de déficience intellectuelle comme intervenante. Donc, ouais. C'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mais j'avais également un intérêt envers les personnes aînées. Donc, j'ai décidé de poursuivre mon chemin académique avec la maîtrise en services sociaux à l'Université de Sherbrooke qui a pris une concentration en gérontologie. Mm-hmm. Et de là, avec des formations complémentaires à travers mon parcours scolaire, j'ai également travaillé à titre de préposé aux bénéficiaires.
Oui.
Donc,
les préposés doivent être contents. Là. Il y a quelqu'un qui a été préposé aux bénéficiaires à la Commission des droits de la personne. Ça va aider.
Exactement. Et après ça, ben avec la maîtrise, j'ai eu un coup de cœur pour la recherche. Il y a un professeur qui m'a enseigné, qui m'a proposé un poste comme auxiliaire de recherche. Et donc, depuis 2012, je travaille au sein de la chambre de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées.
Ouais.
Et en fait, depuis 2014, j'en suis la coordonnatrice. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai vraiment un parcours, je dirais, très diversifié au plan professionnel. Autant d'avoir de l'expérience pratique d'intervention, mais aussi d'accompagnement et de soins auprès des aînés et des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mais j'ai également un côté recherche. Donc, je pense que ça fait vraiment un parcours très intéressant comme commissaire.
Bien, c'est essentiel même d'avoir ce parcours-là parce que ces gens-là, vous les avez côtoyés, pas avec la distance seulement de la chercheuse, avec la proximité de l'intervenante, et ça donne une grande compréhension, je suis persuadé. Mais pour quelle raison profonde, vous, Roxane Leboeuf, vous avez accepté de devenir commissaire à la Commission des droits de la personne?
Bien, en fait, quand on m'a annoncé... qu'on avait proposé mon nom pour devenir commissaire et on m'a demandé si ça m'intéressait de devenir commissaire. Mm-hmm. C'est sûr que j'ai honnêtement dit oui tout de suite. De par mon parcours professionnel, le respect des droits des personnes, des collectivités, des groupes, la promotion, les principes de justice sociale, ça vient vraiment avec la mission du travail social. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup.
Mais ça, c'est important que vous le rappeliez, hein, parce que malheureusement, notre système fait oublier parfois aux travailleuses sociales qu'elles ont, un lien avec le droit des personnes.
Mais en fait, c'est que dans le quotidien, effectivement, les droits peuvent être facilement lésés et c'est peut-être pas une des missions premières, mais une des missions importantes des travailleurs sociaux, mais de tous les professionnels, que ce soit dans le milieu public, communautaire, les droits, c'est dans notre quotidien tous les jours.
Ben, donc, même l'infirmière, vous avez une collègue chercheuse, je pense qu'elle était à l'Université de Sherbrooke, qui a fait sa maîtrise en se questionnant sur le rôle de défense de droits des infirmières.
Oui, peut-être me rappeler son nom.
J'oubliais. J'avais pas la petite note proche. Mais ceci dit, on sent bien qu'il y a des causes qui vous tiennent à cœur, mais est-ce que vous seriez capable d'en identifier quelques-unes? Qu'est-ce que vous allez défendre particulièrement comme commissaire?
Bien, comme commissaire, c'est sûr que de par mon travail depuis quelques années auprès des aînés, je suis particulièrement interpellée par leur situation. Je dois vous dire, je commence actuellement un doctorat en gérontologie.
Oui.
Et donc, je m'intéresse particulièrement à toutes les notions de maltraitance, mais d'intimidation aussi entre les personnes aînées qui vivent en résidence privée.
C'est super
donc,
important. Oui.
Je m'intéresse vraiment aux droits des aînés, pas seulement en termes de l'article 48 qu'on connaît bien par rapport à l'exploitation des personnes aînées et des personnes handicapées, mais vraiment le droit des personnes aînées à son sens large, dans le sens où, dans tous les milieux de vie, comment est-ce qu'on peut mieux favoriser ces droits-là? Comment est-ce qu'on peut soutenir ou en tout cas sensibiliser les personnes aînées à mieux connaître leurs droits et comment ils peuvent elles-mêmes favoriser une meilleure reconnaissance et un meilleur respect de leurs droits. Et ça fait partie d'ailleurs des missions de la d'une des missions de la Commission, le fait d'informer la population sur ses droits, de faire des actions de sensibilisation, de faire des actions d'éducation aussi, et pas seulement auprès de la population, mais on produit divers documents pour informer le gouvernement sur quand il met en place, par exemple, des nouvelles lois, tout ça, bien, de lui faire une analyse par rapport à comment est-ce que ça s'arrime bien ou moins bien peut-être avec la Charte.
Oui. Donc, oui, parce qu'en fait, la commission, comment je pourrais dire ça, lit les projets de loi, s'assure de leur conformité avec la Charte des droits et libertés, puis à ce moment-là, dépose des avis, présente des choses à l'Assemblée nationale, c'est bien ça?
Exactement, ça fait partie de notre mission. Et donc, tous ces documents-là, en fait, sont tous rendus publics sur le site Internet de la Commission. Donc, les gens qui sont intéressés à savoir les positions de la Commission sur divers projets de loi, divers projets de règlement, peuvent facilement aller les consulter en ligne. J'invite tout un chacun à l'écoute, à aller consulter le site de la Commission.
Mais ça, c'est certain qu'on va l'ajouter sur notre page. Pour les autres qui nous écoutent à l'instant, qui seraient peut-être sur le câble, rappelons, vous pouvez visiter le cdpdj.qc.ca. Et donc, il y a toutes sortes de rubriques qui vous informent sur vos droits, que vous soyez une personne aînée, une minorité visible ou n'importe qui d'autre. Merci de le rappeler. Puis il y a les positions aussi que vous prenez comme commissaire, comme commission. En terminant, je sens que la maltraitance, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a eu toutes sortes de défenseuses de cette question-là, mais est-ce que ça a évolué positivement, vous direz, la maltraitance des aînés dans notre société?
Oui, bien, en fait, c'est sûr que depuis 2010, avec le premier plan d'action de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, il y a énormément d'actions qui se sont faites et les gens sont de plus en plus sensibilisés à cette question-là. C'est sûr que quand qu'on regarde les chiffres, par exemple, de la ligne d'abus aînés, où on voit un nombre quand même important de dénonciations, parfois on peut se demander, est-ce qu'il y a plus de maltraitance qu'il n'y en avait auparavant? En fait, la question, c'est surtout, est-ce que peut-être que les gens, en fait, sont mieux informés et osent davantage parler de la maltraitance.
Et ça, c'est pas facile pour travailler beaucoup avec des aînés ou des groupes d'usagers, moi-même. Les personnes âgées ont peur de porter plainte, de parler. Alors ça, j'imagine que c'est un des défis que vous allez avoir vous-même, là, comme un peu, je dirais, porte-voix de ces personnes-là.
Tout à fait, tout à fait. Et je dirais à la chaire, en fait, en ce moment, il y a un projet qui existe, qui est le projet DAMIA, qui est demande d'aide en situation de maltraitance et d'intimidation auprès des personnes aînées. Et à travers ce projet-là, on essaie notamment de mieux comprendre c'est quoi les freins au signalement d'une situation de maltraitance. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne aînée va avoir de la difficulté à demander de l'aide, que ce soit informelle, même d'en parler à ses proches, mais aussi une demande formelle. Par exemple, on peut penser aller pareil même à la commission, par exemple.
Ben oui, à la commission des droits de la personne ou même au protecteur du citoyen, tout dépendant si on a fait le travail préalable au commissaire à l'éthique et à la qualité des services. Et Roxane Leboeuf, rappelons d'une part que vous êtes une professionnelle de recherche à la chaire de recherche pour Marie Beaulieu sur la maltraitance envers les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke, mais en plus, vous êtes cette nouvelle commissaire en qui nous avons confiance, nous avons hâte d'entendre vos prises de position. Bravo et merci, Madame Leboeuf.
Bien, merci à vous. Merci franchement pour l'invitation. C'est vraiment apprécié.
C'est un grand plaisir et on peut avoir plus d'informations au cdpdj.qc.ca. C'est le site web de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
Parfait, merci.
À bientôt.
Au revoir.
Tiens cadeau pour moi, non, bon, ça va aller vite, garde ton manteau sur le dos. Pour dire la vérité, ça fait pas mal longtemps que j'ai pas pensé à toi, fait que rappelle-moi donc comment que ça se fait que je te connais.
Ah oui, ah oui, t'es l'ami d'un ami, d'une amie, à demi-ami, d'une amie de Mimi, que t'as mis dans le lit d'une mamie, ami, ami. Pensez pour toi peut-être, les amis, c'est comme le vin, quand ça donne mal à la tête, c'est parce que ça vaut rien. Même d'un moment, toi, sincèrement, t'es le genre de gars qui comprend vite, peut-être, mais ça prend toujours un peu de temps. Sont bons tes arguments, t'es l'idée de la mythe, à la limite, un jour vont valoir cher au milieu du désert. T'es bien tenace, qualité que j'aime, c'est signe comme quoi t'as bien de la classe, mais comme on dit, y'en la troisième. Tu prends le mot N-O-N-O, tu lis les lettres à la verre à l'André, ben one more time, mais ça fait toujours non, non. T'es gros, t'es fort, mais c'est pas grave, tu vas sortir quand même, ça me prendra deux voyages. Quand je baisse les bras pour poigner mon gun, fait que bienvenue, si tu t'en vas, salut, bye bye, dégage.com. Tu peux rendre service à la société, que je te dis mon ami, je te verrai bien comme guitariste dans le métro de Matagami. Leurs exagères un petit quelque part, la belle visite, elle me fera toujours plaisir. Pas quand t'arrives, mais quand tu pars.
Question de la semaine, est-ce que la neige vous empêche de sortir de chez vous? Que devrait-on faire pour faciliter les déplacements de tous et toutes en hiver?
En réponse à la question, quelques interventions. Merci d'ailleurs de présenter, de nous parler de vos situations. Vous êtes de plus en plus à chaque semaine. Donc, je lirai d'abord le commentaire publié sur canalem.vusezvoix.com de Oussama Contra. Même en ayant une chaise roulante, motorisée, et même si on croyait qu'il n'y a pas trop de neige sur les trottoirs, ma chaise restait prise dans la neige. Et il est impossible pour moi de sortir sans transport adapté. Même en appelant le transport adapté du point A au point B. 1. Le transport arrive très souvent en retard. 2. Le transport arrive et refuse de nous embarquer à cause de la neige, vous comprendrez. Pendant les deux dernières semaines, j'ai raté quelques journées de travail et un rendez-vous médical, bien entendu, à cause de la neige. On comprend donc, j'ai terminé de lire cette intervention, l'impact que peut avoir la neige sur beaucoup de gens. Il est impératif donc de bien déneiger. C'est aussi pour le cas pour Joanne Ouellette, parce qu'on pense souvent aux personnes aveugles, aux personnes qui seraient en fauteuil, mais Mme Ouellette dit d'emblée qu'elle n'est pas en fauteuil. Elle dit, elle écrit plutôt « Marcher sur des trottoirs mal ou pas déneigés et enjamber des remblais de neige le long des trottoirs est très difficile dû à mon équilibre précaire. Ça brime mon indépendance. Alors, tout dépend de la quantité de neige qui est tombée. Je dois être accompagné jusqu'à ce que le changement de la neige soit complété dans mon secteur. » Il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées. Je pense à Véronique Jeté, David Lucier, Sylvain Plourde, Manon Brière, Laurence Perrault-Rousseau. Allez lire leurs commentaires, ajoutez les vôtres, bien sûr. Ça nous permet de continuer la conversation. Merci d'avoir entendu cette émission. Merci à l'équipe, Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux communications et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine et d'ici là, au travers de la neige, ou même, peut-être même du verglas, parce que ça, c'est pas facile non plus, on va se faire un véritable accès libre.